France Inter, Léa Salamé, Nicolas Demorand. Le 7-9.
Bienvenue sur Inter, nous sommes le jeudi 29 avril. Bonjour Agnès Soubiran.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, quel passe sanitaire? Pour quelle utilisation? L'Union européenne a donné son feu vert hier. Le débat agite la classe politique en France. Emmanuel Macron, dans un entretien demain matin à la presse quotidienne régionale, devrait détailler le calendrier et les modalités des mois à venir. On voit ça en détail, Agnès, après les autres titres.
Et une course contre la montre pour retrouver trois anciens brigades rouges italiens réfugiés en France. Sur la forme et sur le fond, le discours de Joe Biden devant le Parlement casse les codes. Les premiers signes de sécheresse en France. Le PSG condamné à l'exploit au match retour face à Manchester City après la défaite hier soir au match au Parc des Princes. Et un entretien, une série drôle et féroce sur les travers de nos DRH.
Invité de France Inter ce matin à 7h50, Léa.
Elle porte des lunettes roses en forme de cœur comme Laura Adler. Elle est exubérante, fantasque comme le sont souvent les Américaines à Paris. Elle est la star de la littérature jeunesse et elle raconte sa vie incroyable dans une autobiographie sincère et mélancolique. Suzy Morgenstern est notre invitée à 7h50.
Et on se retrouvera à 8h20, Léa, pour le grand entretien de la matinale avec le politologue et directeur du département Opinion à l'IFOP. J'ai nommé Jérôme Fourquet. Il dialoguera avec vous, évidemment, au 01 45 24 7000.
France Inter.
Qu'on l'appelle passe sanitaire, passeport vaccinal ou certificat vert, qu'il soit déjà exigible pour se rendre en Corse ou prévu cet été pour circuler en Europe, le débat fait rage. Hier, le Parlement européen a donné son accord à un certificat vert numérique qui pourrait être mis en place d'ici fin juin. Un QR code permettra alors de prouver une vaccination, un test récent négatif ou la présence d'anticorps. Et la libre circulation au sein de l'espace Schengen sera alors possible. Chaque pays pourra également décider d'exiger ce passe pour aller au restaurant ou assister à de grands événements sportifs ou culturels. En France, Laurence Perron, l'opposition reste très sceptique.
Même dans les rangs de la majorité, on marche sur des œufs, surtout que la Ligue Modem n'est pas à l'aise avec ce qu'il faut bien nommer par son vrai nom, un passeport sanitaire, ce que fait le député LR de la Manche, Philippe Gosselin.
On ne veut pas dire passeport, ça fait davantage peur. Mais instaurer un pass alors que tous ceux qui n'ont pas pu se faire vacciner sont encore sur la touche, c'est instaurer une inégalité entre nos concitoyens.
Les écologistes n'y sont pas favorables, le RN non plus. Florian Philippot, l'ancien bras droit de Marine Le Pen, dissident du parti, mais pas de la ligne.
Je suis inquiet de ce qu'on pourrait développer ensuite à partir de ça. On met le doigt dans un engrenage qui me paraît extrêmement dangereux.
Les socialistes, comme souvent depuis le début de cette pré-campagne, sont aux abonnés absents. La France insoumise, elle, accuse par la voix de son député Éric Coquerel.
Non, on franchit un palier. J'ai l'impression qu'on nous installe au fur et à mesure dans une société qui risque de renforcer un aspect de surveillance généralisée. C'est ça qui m'inquiète.
Au gouvernement aussi, les avis divergent, craignant qu'en définitive, ce passeport sanitaire ne bénéficie qu'aux grosses structures qui refusent de remettre en cause les jauges parce qu'elles remettent en question un modèle de rentabilité économique qu'ils refusent de changer.
Emmanuel Macron devrait préciser le calendrier et les modalités du déconfinement demain matin dans un entretien qu'il va accordé aux quotidiens régionaux. La décision est en tout cas très attendue par Martial Bellon. Il est le président du club de basket de Strasbourg.
On l'attend pour deux raisons principales. La première, c'est que jouer dans des salles vides quand on fait un spectacle sportif, c'est la négation même de notre activité, si je puis dire, quoi. Et puis, deuxièmement, vous savez que notre situation économique des clubs professionnels est catastrophique, surtout dans le basket où nous n'avons pas de droit télé. Donc, si nous pouvions, avant la fin de la saison, recevoir un peu de public, cela nous permettrait de limiter un peu la perte importante à laquelle on s'attend.
Un propos recueilli par Antoine Ballandra de France Bleu Alsace. Alors le corollaire, c'est bien sûr une campagne de vaccination à grande échelle, avec l'ouverture des centres de vaccination aux plus jeunes. À Paris, Cyril Ardot a rencontré des trentenaires impatients de se faire vacciner.
À 32 ans, Sofiane s'est lancée dans la tournée des centres de vaccination parisiens.
C'est le troisième centre que je fais en me disant, est-ce qu'il y a des possibilités d'avoir en fin de journée une dose? Je veux pas prendre la place de quelqu'un qui en a besoin, mais vu que ça y est à la poubelle, je préfère l'utiliser. On m'a dit que c'était impossible ici, que c'était sur liste d'attente.
Sofiane le sait, il a peu de chances d'obtenir une injection, il n'exerce pas un métier prioritaire, n'est pas à risque, mais il a parfois un peu de mal à comprendre que la campagne prenne autant de temps.
Ça va peut-être pas assez vite pour nous, surtout quand on entend ce qui se passe aux infos, vrai ou pas vrai. Comme quoi des doses sont perdues ou que tout n'est pas complet, quoi.
Pour lui, la vaccination, c'est synonyme de retour à la vie normale. Même chose pour Anne-Marie, la trentaine.
Je pourrais revoir des gens un peu plus normalement, arrêter de d'angoisser.
Elle aimerait une ouverture de la vaccination au plus grand nombre, tout en conservant certaines priorités.
Il faut que les gens prioritaires passent en priorité. Par contre, il faut peut-être voir les restrictions sur les autres vaccins que les gens ne veulent pas prendre, alors qu'il y a peut-être des gens qui seraient prêts à se faire vacciner avec AstraZeneca, par exemple.
Ouais, vous seriez prête, par exemple, AstraZeneca ?
Je pense, oui.
Et au-delà du retour à la vie normale, beaucoup de ces jeunes, souvent accusés de ne pas faire suffisamment attention et de propager le virus, voient la vaccination comme un moyen de protéger leurs proches les plus âgés.
Et à noter que Pfizer devrait très prochainement proposer un vaccin destiné aux 12-15 ans. Demande sera faite auprès de l'Agence européenne du médicament. Les indicateurs ce matin en France sont un peu meilleurs. On est repassé sous la barre des 30 000 patients hospitalisés, dont moins de 5 900 en réanimation.
Il est 7h06, une course contre la montre, Agnès, est engagée pour retrouver un ex-brigade rouge italien réfugié en France.
Alors, 7 anciens militants ont été interpellés hier en France à la demande de l'Italie. La justice française doit maintenant se prononcer sur leur possible extradition. Mais 3 hommes sont toujours en fuite et activement recherchés, car au moins pour l'un d'entre eux, il s'agit d'une question de jour, Charlotte Piret.
Il s'appelle Maurizio Di Marzo et il lui reste 12 jours à tenir dans le bras de fer qu'il oppose aux autorités italiennes. Car passé le 10 mai prochain, cet ancien militant des Brigades Rouges n'aura plus à répondre des crimes pour lesquels il a été condamné. En l'occurrence, des faits de terrorisme, d'organisation de bandes armées, de séquestration ou de hold-up. L'homme, aujourd'hui sexagénaire, installé en France depuis de nombreuses années, est ainsi considéré avec l'autre brigadiste Marina Petrella comme membre du commando qui en 82 a agressé le vice-préfet de Rome. Celui-ci, croyant ouvrir au facteur, avait été grièvement blessé avant de répliquer en tirant 3 coups de feu. Maurizio Di Marzo a été condamné pour cela par la justice italienne à 18 ans de réclusion, mais le 10 mai prochain, si les forces de l'ordre françaises n'interrompent pas sa cavale avant, l'exécution de sa peine sera prescrite et la demande d'extradition de l'Italie tombera de fait. Comme nombre de ses compagnons interpellés hier, Maurizio Di Marzo avait déjà été arrêté en France, c'était en 94 à Paris, toujours dans le cadre d'une demande d'extradition italienne, mais celle-ci n'avait à l'époque pas abouti.
Et pour se souvenir de qui étaient les Brigades Rouges dans les années 70-80, rendez-vous sur franceinter.fr. Emmanuel Macron assistera cet après-midi aux obsèques de la fonctionnaire de police assassinée vendredi dernier à Rambouillet. Une cérémonie strictement privée avant l'hommage national demain, en présence cette fois du Premier ministre. Et puis en bref, encore des sanctions contre les militaires encore en activité qui ont signé la tribune dans Valeurs Actuelles la semaine dernière. Le détail de ces sanctions dans le journal de 7h30.
Il est 7h08, Agnès. L'Amérique va de nouveau de l'avant.
Ce sont les mots de Joe Biden cette nuit devant le Congrès américain. Une intervention bien orchestrée sur la forme comme sur le fond. Discours suivi par notre correspondant Grégory Phillips.
Jamais un président américain dans toute l'histoire des États-Unis n'avait prononcé ces mots. Madame la speaker de la Chambre, Madame la vice-présidente, et Joe Biden se félicite. Il était temps. Les deux femmes sont assises au-dessus de lui pendant toute la durée de son discours. Joe Biden décrit d'abord l'état dans lequel il a trouvé le pays à son arrivée à la Maison-Blanche. J'ai prêté serment il y a 100 jours. J'ai hérité d'une nation en crise, la pire pandémie du siècle, la crise économique la plus grave depuis la Grande Dépression, la pire attaque contre notre démocratie depuis la guerre civile. Mais je peux le dire à la nation, l'Amérique va de nouveau de l'avant. Puis le président démocrate détaille son nouveau plan à 1 800 milliards de dollars destiné aux familles, avec des propositions simples, un congé parental de 12 semaines, 2 ans d'école maternelle gratuite. Comment va-t-il financer cela ? Il est temps pour les grandes compagnies américaines et les Américains les plus riches, 1% de la population, de payer leur juste part. Mais Biden sait qu'il aura du mal à convaincre le camp républicain de voter un nouveau plan à plusieurs centaines de milliards de dollars. Alors il conclut par cet appel à l'unité. Rien ne nous est impossible si nous le faisons ensemble. Alors rassemblons-nous. Washington, Grégory Phillips, France Inter.
La Chine à la conquête de l'espace avec le lancement ce matin du premier des 3 éléments de sa future station spatiale qui devrait permettre à Pékin d'avoir des astronautes dès l'an prochain en permanence dans l'espace. Retour sur Terre et en France avec les premiers arrêtés préfectoraux pour restreindre l'usage de l'eau. 7 départements sont placés en vigilance sécheresse dans le Grand Ouest et le pourtour méditerranéen. Car si les nappes phréatiques restent remplies, les sols en surface s'assèche, Claire Tchekalini.
50% de pluie en moins sur la Loire-Atlantique depuis janvier et une seule journée pluvieuse depuis 4 semaines sur l'exploitation de Michael Trichet, éleveur non loin de Nantes.
On dit que pour que la végétation reparte après les gelées, il faut qu'il y ait une bonne pluie pour laver la gelée. Et ça, aujourd'hui, ça ne s'est pas produit.
Résultat, l'herbe peine à pousser alors qu'au printemps, les agriculteurs doivent faire leurs réserves de fourrage.
C'est là que ça va être très très inquiétant. Au-delà de trouver du fourrage, c'est comment on va le payer. Personne ne s'attendrira sur notre cas, encore moins la grande distribution. C'est chacun se débrouille. On va trouver dans une situation où les gens n'ont pas de trésorerie, des situations dramatiques.
Et la préfecture de Loire-Atlantique, comme dans 18 autres départements, a pris un arrêté pour réguler d'ores et déjà l'utilisation de l'eau dans certains territoires.
Aujourd'hui, il faut qu'on arrête de prendre des arrêtés.
Laurence Messart, en charge des questions climatiques à la FNSEA.
Il faut absolument qu'on arrive à stocker l'eau l'hiver quand elle tombe en quantité. On stocke actuellement moins de 1% de l'eau qui tombe en France, alors que l'Espagne va stocker 20 à 25% de cette eau.
Mais pour parer au plus urgent, plusieurs syndicats d'agriculteurs ont demandé à pouvoir utiliser les herbes des fossés et autres surfaces non agricoles afin de nourrir leurs bêtes dans les semaines à venir.
Ils veulent encore y croire, les Parisiens, mais ce sera dur. Le PSG battu 2-1 hier soir au Parc des Princes par Manchester City en demi-finale allée de la Ligue des Champions. Neymar et Mbappé sont passés à côté du match. Heureusement, il y a Marquinhos, capitaine et auteur du seul but parisien, pour qui rien n'est encore perdu.
C'est vrai, deuxième mi-temps, on a été trop derrière. On n'arrivait pas à sortir, on essayait. Peut-être si l'équipe des City, ils ont été plus agressifs. Il faut que pour le prochain match, on arrive à être plus régulière dans les deux mi-temps. Et on est conscient aussi quand même qu'il nous reste encore 90 minutes. On est vraiment très très proche et il ne faut pas qu'on ait des doutes maintenant. Il faut aller là-bas, améliorer les choses qu'on a fait de mauvaises sur ce plan de match aujourd'hui. Et on a tout ce qu'il faut pour renverser la situation. Il faut y croire, il faut être costaud, il faut avoir la personnalité pour aller là-bas et faire le meilleur match possible.
Et match retour, ce sera mardi prochain à Manchester. Enfin, le monde de l'entreprise, une nouvelle fois croqué. On se souvient de Caméra Café sur M6. Cette fois, MyCanal s'intéresse aux entretiens d'embauche avec une série sobrement intitulée Entretien. La saison 3 vient de débuter avec l'excellent Benjamin Lavergne. Alexandra Hakoun.
Une bonne dose de cynisme.
Et c'est pour ça qu'on nous paie, pour annoncer des horreurs sans faire flipper tout le monde.
Même si on a clairement basculé dans le monde d'après.
Bon, tu veux partir ta visière, on est à plus d'un mètre là.
En ce début de saison 3, notre DRH névrosé, qui parle beaucoup dans sa tête, se voit propulsé directeur du bonheur.
Vous êtes le nouveau DB.
Non,
à partir de maintenant, vous êtes le rayon de soleil de la boîte.
Moi ? Mais pourquoi moi ? Je suis pas un soleil, je suis un trou noir, moi. Je vais plomber tout le monde. Là.
Plus déjanté et corrosif que jamais, un entretien poursuit son exploration des rapports sociaux et de la vie en entreprise. Télétravail, sécurité informatique, injonction au bonheur, rapport femme-homme, tout y passe, poussé à l'extrême, comme face à cette candidate qui, en plein entretien, a une montée de lait.
Comment je lui dis, moi ? Elle va être trop gênée. Une blague ? Légèreté connivence, pote. Allez, hop.
Ah bah ça tombe bien, je prends du lait dans mon café.
C'est vraiment très déplacé comme réflexion.
Non, c'était une blague, c'était pour dédramatiser.
Dans la peau du DRH lourdingue et caricatural, Benjamin Lavergne de la Comédie Française confirme son potentiel comique. La scène où à bout son personnage imagine se suicider devant son nouveau patron à coups de gel hydroalcoolique est à hurler de rire.
Hey, arrêtez, vous gâchez du produit là.
Vous allez pas le m'empêcher.
Non, mais c'est la propriété de la société ça.
La farce pour dénoncer un monde du travail de plus en plus déshumanisé et vide de sens. Très efficace.
Un entretien, saison 3 sur MyCanal.
Merci Agnès Soubiron. Dans 3 minutes, le zoom sur les nouveaux donneurs de gamètes.